Club.
Le premier grand rendez-vous de tennis de l'année, c'est pour demain et la tant attendue finale de l'Open d'Australie qui opposera Roger Federer à Rafael Nadal. Une affiche de finale que l'on peut qualifier de surprise. On n'imaginait pas forcément ces deux joueurs arriver jusqu'au bout. Des surprises et des rebondissements, il y en aura eu dans cet Open d'Australie. Nous les évoquons aujourd'hui dans Bienvenue au Club avec notre invité Luciano Benincasa, entraîneur junior et jeune au Tennis Club des Cadoles à Neuchâtel. Luciano Benincasa, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission consacrée à l'Open d'Australie de tennis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur votre parcours. Vous êtes argentin d'origine italienne. Vous vous êtes formé comme entraîneur de tennis au sein de la Fédération française pendant 6 ans, avant de retourner en Argentine coacher les jeunes espoirs, parmi lesquels se trouvait un certain Juan Martín del Potro. Vous êtes arrivé en Suisse en août 2015 sous l'impulsion de Pablo Minutella, qui est membre du comité du Tennis Club des Cadoles à Neuchâtel, et puis qui est aussi au passage un de vos amis d'enfance. Au Tennis Club des Cadoles à Neuchâtel, vous vous occupez des juniors qui sont en compétition ainsi que des jeunes de 10-12 ans pour la détection de talents potentiels. Est-ce que j'ai fait un parcours
Oui. Point de vue de votre parcours correct. Pablo Minutella, c'est le directeur en fait, de l'académie et Joël Bobia, la directrice de l'école de tennis. Donc je travaille avec eux.
Parfait. Parlons donc de cette Open d'Australie et peut-être la première grosse surprise de cette édition 2017, la défaite du tenant du titre et numéro 2 mondial, Novak Djokovic, au deuxième tour. Et c'était face à Denis Istomin, un Ouzbek 117e joueur mondial. Vous avez suivi ce match ?
Oui, j'ai regardé un set et demi de ce match. Et bon, vraiment, Djokovic, il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Moi, je trouve qu'en fait, on trouve un joueur qui a pas peut-être la même motivation qu'avant. Il a gagné le Grand Chelem les 4 fois d'affilée, donc ça c'est quelque chose d'incroyable. Très peu de joueurs ont réussi ça. Et là, peut-être qu'il va passer un petit moment pour qu'il arrive à reprendre un peu, parce que là je trouve peut-être qu'il a pas la même motivation qu'avant.
C'est vrai qu'il n'avait plus perdu au second tour d'un tournoi de Grand Chelem depuis 2008, hein, c'était au tournoi de Wimbledon. Est-ce que, d'après vous, c'est le début de la fin ou c'est un couac passager et qu'il va vraiment revenir ?
Je ne pense pas, oui, je pense qu'il va revenir. Comme je vous disais avant, se consacrer au sport à ce niveau-là, c'est vraiment très 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 difficile. Maintenant, il a une famille, je pense qu'il a d'autres choses qu'il a à faire et... Peut-être quelques moments de réflexion et il va revenir. Il est jeune, il est très très jeune. Il est 87, il va avoir 30 ans. Et on voit maintenant que le tennis, avec le circuit dans le tennis, il a vieilli. Maintenant, on voit les 4 finalistes qui sont plus de 30 ans. Donc je pense qu'il va revenir. Et puis en plus, il a un gros physique. Donc je pense qu'il sera de retour.
Et cette sortie prématurée, en fait, elle semblait aussi tracer un chemin idéal, on va dire, pour le numéro 1 mondial, Andy Murray, qui du coup devenait l'incontestable favori du tournoi. Mais là, nouvelle surprise, le Britannique s'incline en 8e de finale face à l'Allemand Misha Zverev, qui est lui 50e joueur mondial. Est-ce que vous imaginiez ça ? Vous pensiez être Zverev capable de battre Andy Murray ?
Non, en fait, on n'attendait pas ça. Et surtout que Murray avait fini l'année en beauté. Et on attendait tous un début d'année de sa part de la même manière. Mais je pense que tous les deux, Djokovic et Murray, ils sont payés un peu l'année 2016. Ils ont été au bout tout le temps, tous les deux. Ils ont une année très chargée. Alors que Nadal et Federer, ils ont une année à cause des blessures où ils se sont arrêtés. Federer, je crois qu'il s'est arrêté juste après Wimbledon. Donc ça fait quand même un bon repos.
Donc pour vous, c'est plus la fatigue qui a peut-être entraîné ces échecs, ou bien c'est aussi peut-être un excès de confiance, on commence l'année trop facilement, on va prendre des joueurs...
Ça peut être un des éléments. Honnêtement, je pense qu'après Murray, il fallait quand même qu'il assure, qu'il assume qu'il était numéro 1, qu'il devait commencer à gagner. Pete Sampras, je me souviens qu'il disait le plus dur, ça n'a pas été d'arriver à numéro 1, c'était se maintenir. De se tenir là-haut, c'est vraiment très très dur. Donc là, je pense que Murray aussi, il a pris un coup.
Puis dans la tête, quand on doit affronter un 117e joueur mondial ou 50e, est-ce que là aussi, vous pensez qu'il y a un déclic qui se fait et qui se dit, bon, bah, ce match, je vais le remporter sans trop de problèmes ?
Je pense pas qu'à ce niveau-là, il puisse aborder chaque match avec un... plus de facilité. Je pense qu'ils sont conscients qu'à ce niveau-là, tout le monde peut gagner des matchs. Hein. D'ailleurs, ils sont conscients. Mais s'ils sont un petit peu déconcentrés ou ils ont un peu de fatigue, ça compte. Il faut vraiment être top dans tous les domaines.
Qu'est-ce que vous pensez de ces deux Allemands, Alexander et Misha Zverev, qui progressent de plus en plus?
En fait, Alexander, c'est un jeune joueur du 97, il est 20 ans, c'est une bonne promesse en Allemagne. Misha Zverev, son grand frère, je l'ai connu en junior. Il joue bien, il a toujours du talent, mais il n'a pas eu le succès que je pense qu'il va avoir son frère Alexander, parce que il est plus ambitieux, il est décisif, il est déterminé, et on voit une autre attitude. Je pense qu'il a du temps encore, il a que 20 ans, Alexander, mais je pense que ça sera un joueur de la relève qu'on verra dans les grands chelems.
Avant peut-être d'aborder cette finale de demain, jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous a, vous, le plus marqué dans cette édition 2017 de l'Open d'Australie?
Mais justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que pour nous, tous ceux que les entraîneurs de tennis qui travaillent avec des jeunes joueurs, qui ont forme de joueurs, bon, c'est un bon message, il ne faut pas se précipiter, c'est un message aussi aux parents de joueurs de tennis. Il faut bien travailler, il faut pas brûler les étapes, parce que la carrière d'un joueur de tennis, elle est très longue. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, les quatre finalistes ont plus de 30 ans. L'entraînement physique est devenu très spécifique. Il fait que les joueurs, ils se blessent moins et ils peuvent jouer beaucoup plus longtemps qu'avant. À mon époque, on faisait un entraînement physique beaucoup différent que maintenant, et on était blessé et puis usé beaucoup plus tôt. Et puis maintenant, on voit les joueurs qui après 30 ans, ils arrivent à avoir un niveau, bon d'ailleurs, Babrinka qui a gagné son premier Grand Chelem après les 30 ans. Il faut pas se précipiter avec les jeunes, il faut bien travailler et ne pas brûler les étapes.
Effectivement, hein, si on regarde l'âge des deux finalistes même, Nadal 30 ans, Federer 35 ans, au-delà du fait que, ce qui est aussi assez particulier, que ce soit des joueurs au classement ATP 9e et 17e, mais du coup 30, 35 ans, il n'y a pas d'âge pour être au top au tennis?
Mais c'est-à-dire qu'avant, on voyait que les sommets des joueurs étaient autour de 25, entre 25, 27, 28 maximum, et puis là on voit que c'est bien après. C'est après 27, 28 ans qu'on commence à voir les meilleurs résultats des joueurs. Donc, je pense que ça a évolué. D'ailleurs, on a vu Boris Becker gagner Wimbledon à 17 ans, Michael Chang gagner Roland Garros à 17 ans. Maintenant, je pense que c'est injouable de voir un joueur gagner un grand chelem à 17 ans. La différence physique, elle est énorme. Donc, je pense que ça a beaucoup évolué. Et puis, les joueurs, pour entrer dans le circuit professionnel, et c'est difficile de le faire avant 22, 23 ans.
Ça, c'est un message que vous faites passer à vos jeunes, de dire qu'il ne faut pas se précipiter à 17 ans.
Bien sûr, surtout aux parents. Surtout aux parents. Parce que s'ils sont prêts à soutenir leurs enfants, il faut savoir que ce schéma, il est très long.
Parlons maintenant de cette finale, hein, Nadal-Federer. Je parlais en tout début de cette émission d'une surprise. Pour vous, cette finale, c'est une surprise ou vous y attendiez un petit peu?
C'est-à-dire que c'était une finale attendue pour tous ceux qui adorent le tennis, parce que je pense que Nadal-Federer nous sont réjouis pendant plusieurs finales. Et je pense qu'ils ne jouaient pas depuis...
Dernière rencontre entre les deux, octobre 2015,
voilà.
À Bâle.
Ouais. D'accord, ok. Donc, les gens, ils aiment ça. Mais c'est vrai qu'on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas parce qu'on voyait quand même, après le départ de Murray et Djokovic, vous savez, avec ces quatre joueurs, avec Nadal et Federer, ils ont pris le sommet du tennis pendant quelques années. et ils n'ont pas laissé les places aux autres. Et là, on voyait quand même la porte à la nouvelle génération, Dimitrov, Raonic, Nishikori, Goffin, c'est des joueurs qui sont des années 90. Et donc, on voyait un peu la porte pour qu'ils commencent à gagner des grands chelems et à rentrer dans les top 4. Bon, là, ce retour-là, il est quand même superbe.
Un retour après des blessures pour les deux joueurs. Comment est-ce que vous imaginez la suite de cette saison pour ces deux joueurs? Est-ce qu'un Federer qui a quand même 35 ans va réussir sur le long terme à maintenir ce niveau qu'il a pu récupérer à l'Open d'Australie?
Il va falloir qu'il choisisse bien les tournois et peut-être qu'il ne faut pas qu'il joue énormément. D'ailleurs, Federer, ça n'a pas été quelqu'un qui joue énormément. Il a toujours bien choisi ses tournois. Il est au grand rendez-vous simplement. Mais là, en plus, les stratégies du calendrier, ça sera très important pour tous les deux, parce que le physique, bien évidemment, après un grand chelem, il prend son coup.
Et à votre avis, lequel des deux est le plus armé pour remporter cette finale?
Ah, c'est dur, hein. C'est une question vraiment très dure parce que je pense qu'ils se connaissent très bien. On verra qui a payé le plus la quantité des matchs qui sont faits pour arriver en finale. Moi, je pense, je pense qu'il y aura une finale très, très, très ouverte. Donc, quelqu'un de deux peut gagner. Et on aimerait bien qu'on ait en Suisse que ça soit Roger Federer qui gagne.
Je vous le fais pas dire.
Et d'ailleurs, tous les gens, je pense qu'ils attendent de ça.
Mais en fin de compte, pour Roger Federer, qui a déjà, il a plus ou moins déjà réussi son tournoi en arrivant en finale après la longue absence qu'il a eue, est-ce que vous pensez que pour lui, il va pouvoir jouer sans pression, comme en fin de compte, la réussite est déjà d'être à ce stade-là?
Moi, je pense. D'ailleurs, j'ai vu une grande joie de la part de Federer quand il a battu Nishikori. Mais j'ai pas vu cette grande joie quand il a battu Wawrinka. Je pense que quand il a battu Wawrinka, il avait plus de pression. Il se sentait avec une obligation peut-être plus importante. Je pense, je sais pas s'il pensait qu'il allait battre Nishikori. Et là, je sais pas s'il se sent qu'avec ça, il a réussi son entrée dans le circuit ou s'il veut aller encore au bout.
Vous avez parlé de Wawrinka, justement, qu'est-ce que vous pensez de son parcours dans cet Open d'Australie?
Il est excellent, je pense que c'est quelqu'un qui tous les enfants, tous les jeunes qui font du tennis l'adorent par sa personnalité, par sa capacité de travail, parce que vraiment c'est quelqu'un qui a passé un message à tout le monde. Donc je pense que son parcours il est excellent. Il aurait pu gagner parce que le match il a été vraiment très, le dernier set a été très très serré, il aurait pu gagner. Et puis voilà, mais je pense que il a fait un excellent tournoi.
Est-ce que le fait que Roger Federer ne montre pas autant de joie à la victoire contre Wawrinka que contre Nishikori, est-ce que c'était aussi dû au respect, enfin non pas qu'il n'ait pas de respect pour Nishikori, mais au respect peut-être différent face à son compatriote?
Bien évidemment, je pense qu'il sait la même chose qu'on disait tout à l'heure, il sait qu'il y a la nouvelle vague qui arrive, et puis que ces gens-là, peut-être qu'ils deviennent un peu plus dangereux dans sa survie, comme hier, avant-hier, Dimitrov a failli battre Nadal. Donc, ces joueurs-là, c'est les plus dangereux maintenant dans le circuit.
Vous espériez voir Nadal arriver jusqu'au bout sans vouloir décrocher un favori entre Nadal et Dimitrov, mais rien que pour l'affiche, le retour de ce duel Federer-Nadal qui a fait vibrer le tennis pendant tellement longtemps.
Oui, je pense que c'est un match avec deux styles différents, deux personnalités différentes. Donc c'est ça qui a aussi fait que ça soit aussi remarquable dans toutes ces années. Un joueur qui cherche les points tout le temps, qui joue en beauté, et qui est fin, et qui a un style de jeu un peu à l'ancienne, et puis un autre joueur qui joue en force, qui fait pas de fautes, qui s'exprime énormément sur le terrain. Donc c'est deux styles différents, et puis les gens ils prennent parti. Il y a beaucoup de gens qui aiment Nadal, il y a beaucoup de gens qui aiment Federer.
Et qu'en est-il de vous? Vous supporterez quel joueur?
Moi j'adore tous les deux joueurs, je suis pas vraiment pour un style de jeu, honnêtement. Je préfère là que je suis en Suisse, que ça soit Federer qui l'emporte.
On va terminer cette émission sur cette remarque qui nous plaît bien. Luciano Benincasa, merci d'avoir participé à Bienvenue au Club. Beaucoup de succès avec les jeunes dont vous vous occupez au Tennis Club Décadol à Neuchâtel. Chers auditeurs, on vous rappelle de votre côté le rendez-vous à ne pas manquer. Donc demain à 9h30 heure suisse pour cette finale de l'Open d'Australie qui opposera Rafael Nadal à Roger Federer. Si vous nous avez rejoint en cours d'émission ou que vous souhaitez la réécouter, rendez-vous sur nos sites internet rtn-rjb ou rfj.ch. Bienvenue au Club revient la semaine prochaine à la même heure pour un autre sujet d'actualité sportive. Très bel après-midi et bon week-end à tous.
Bienvenue au Club.